Bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques instants la rencontre avec le BDiste Stéphane Lemardelé sur sa BD Le Nouveau Monde Paysan qui parle d'agriculture alternative. Donc, ça tombe sous le sens que c'est un sujet qui va intéresser les gens au marché fermier du Vieux-Saint-Lambert. Donc, d'abord, j'ai commencé avec une petite bio sur vous, au cas où les gens ne vous connaîtraient pas complètement. Donc, né en France, Stéphane Lemardelé est un scénariste et dessinateur qui a étudié à l'École des Beaux-Arts de Cherbourg avant d'émigrer au Québec en 1995. Il a été storyboarder de cinéma, notamment pour des longs-métrages comme Black Mansion de C. Delamar et Everything Will Be Fine de Wim Wenders. Il a également collaboré à l'organisation de multiples festivals, dont les Rendez-vous du cinéma québécois et le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Il a aussi développé dans sa région de multiples projets artistiques collaboratifs contribuant à créer une cohésion sociale comme À hauteur d'enfant et Le Rétro-Labo. Le Nouveau Monde Paysan est sa première bande dessinée. Donc, ma première question serait par rapport à la genèse de la BD. Je veux savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'agriculture alternative au Québec.
Va falloir 2 heures pour que j'y réponde. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, moi, je dois vous dire que je n'ai pas du tout le pouce vert. Je ne suis pas capable de planter un légume. Et donc, justement, je suis en admiration devant tous ces gens-là qui le font. Et c'est un ami à Pigeonhill qui a une ferme, une petite ferme, où il plante chaque année 60 à 63 000 plants d'ail. Et la récolte se fait en une journée. Alors, il invite 100 à 150 personnes à participer à cette récolte-là. Alors, vous imaginez le soir, la tablée de 150 personnes avec les 2 agneaux qui grillent au bout, les 25 poulets, etc. Et j'ai participé à cette récolte plusieurs années de suite. Et bien sûr, ça provoque une cohésion sociale extraordinaire parce que, déjà, bon, on est fatigué à la fin de la journée, on est sale, on est crotté, on ne sait pas comment faire. Alors, on a mal partout parce qu'on n'est pas habitué, nous, à faire ce genre de choses. Puis, c'est des gens qui viennent aussi bien, ce sont ses amis, sa famille, les voisins agriculteurs, puis aussi bien des gens de Montréal qui viennent spécifiquement pour cette journée-là. Alors, en vivant ce moment-là, cette journée à la campagne, il faut raconter ça d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, étant dessinateur, la bande dessinée est venue par elle-même. Puis le déclencheur, c'était aussi en lisant Les Ignorants de Étienne Davodeau, qui est un échange entre un auteur de bande dessinée puis un viticulteur. Et bien sûr, bon, j'ai commencé à raconter l'histoire de cette récolte tout simplement. Au début, ça devait faire peut-être 50-60 pages, mais sur place, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont raconté leur métier, qui m'ont parlé de leur vision. Je me suis dit, oh, intéressant. Et petit à petit, j'en ai rencontré de plus en plus et j'ai vu un sujet intéressant à approfondir. Ouais. Et quand, bien sûr, tous ces maraîchers, beaucoup de jeunes, beaucoup de néo-ruraux, m'ont raconté aussi les problèmes auxquels ils étaient confrontés, bah, là, j'ai foncé dedans, puis c'est devenu une bande dessinée documentaire de 250 pages. Alors j'ai appris énormément d'affaires, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je ne sais toujours pas planter des légumes, mais maintenant j'ai un réseau, je sais où aller. Et ce que je vois là, au marché ce soir, c'est vraiment formidable.
Oui. Et justement, donc, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dont vous racontez l'histoire dans la BD, d'en avoir au moins une trentaine, et je me demandais, est-ce que c'est tous du bouche-à-oreille que vous avez rencontré, ou est-ce que vous avez fait des recherches, publié des annonces, je ne sais pas trop, pour manifester ces rencontres-là?
Alors, non, j'ai publié aucune annonce, mais ça a fonctionné un peu par bouche à oreille.
Okay.
C'est-à-dire que déjà, Christian, bah, il a un réseau d'amis autour de lui, donc juste dans le champ où on a fait la récolte, faisait la récolte, il y avait déjà de ses amis qui étaient là, ses voisins, donc déjà il y a eu une première recherche qui s'est faite un petit peu par les contacts. Puis ensuite, ces gens-là m'ont amené à d'autres personnes. Puis moi-même, donc j'habite à Sutton, dans les cantons de l'Est, à 3 quarts d'heure de chez Christian, tout se passe dans un rayon de 50 km. Hein, on ne fait pas beaucoup de millage avec ce livre, on reste vraiment dans une région. Et justement, je pense qu'en prenant un microcosme comme ça, on retrouve ce genre d'initiatives partout à travers le monde. Et je suis persuadé qu'autour de Saint-Lambert, bon, peut-être sortir un petit peu plus, mais sans aller très loin, parce que le marché de ce soir en est un exemple, il y a la même chose qui se passe. Alors c'est un petit peu comme ça que j'ai fonctionné, de contact en contact, puis avec les connaissances que j'avais aussi, parce que, habitant à Sutton, bon, il y a quelques amis comme la Grelinette qui est en face de nous. C'est moi qui ai dessiné leur logo il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est Maud Hélène qui a fait le petit croquis vert qui est là-bas. Et c'est moi qui l'ai arrangé après avec l'écriture. Mais ça date déjà. Je crois qu'il a été modifié depuis. La petite histoire, c'est moi aussi qui devais illustrer le livre de Jean Martin. Alors c'est vraiment, on est assez serré, on est une bande de copains qui nous connaissons bien, et Marie Bilodeau qui a fait les illustrations finalement, je travaille souvent avec elle comme graphiste. Alors il y a un petit noyau qui est là, mais j'ai aussi découvert plein de gens. Et j'ai aussi rencontré une dame qui s'appelle Leslie Carbonneau, qui travaille à la MRC de Brome-Missisquoi, qui elle a développé la banque de terre. Alors, il faut savoir que s'il y a des maraîchers, des agriculteurs qui veulent s'installer, c'est très difficile parce qu'ils doivent acheter des terres immenses, alors que la Golinette l'a prouvé, sur quelques acres, on peut produire pour nourrir sa famille, puis nourrir une population comme Saint-Lambert et d'autres. Alors, la banque de terres a permis de mettre en phase des propriétaires terriens et des agriculteurs ou des maraîchers qui avaient un projet. Alors, elle m'a présenté quelques personnes qui étaient inscrites à la banque de terre. Alors c'est ainsi que j'ai rencontré Aurélien et Amélie, qui sont sur la couverture, qui eux ont travaillé à la Golinette, ont travaillé au jardin de Tessa et voulaient monter un projet. Alors leur projet, comme c'était un projet tout neuf, je dis ça, c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Ensuite j'ai rencontré Edem Avegbo, qui fait partie du réseau de fermiers de famille avec Equiterre, qui était lié aussi à la banque de terre, et lui avait un parcours tout à fait significatif parce qu'il vient du Togo. Ouais. Alors il était complètement perdu, et ce qui est très drôle, ce qu'il raconte dans la bande dessinée, c'est qu'en arrivant au Québec, il pleurait parce qu'il n'était pas à Montréal, il était à Sherbrooke. Puis finalement, il se rend compte qu'avec le recul, c'est ça qui l'a sauvé, parce que il a poursuivi ses études, mais il a tout laissé tomber ensuite pour se consacrer à son jardin. Alors, par ce biais-là, j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Mais c'est vraiment de réseau en réseau, de façon très locale.
Oui, et j'imagine que, en tout cas, moi, ces BD-là ont vraiment changé la façon dont je voyais l'agriculture.
Ah, super!
Je veux savoir, justement, est-ce que ça avait changé la façon dont vous voyez ça, ou est-ce que vous étiez déjà assez au courant de ces techniques-là, et des difficultés, surtout, que les agriculteurs rencontrent pour arriver à produire et à résister, disons, à la culture de masse, à la production de masse que le gouvernement, en fait, semble vouloir vraiment instaurer?
Ben, je connaissais un peu ces agriculteurs-là, ces maraîchers. Bon, habitant Sutton, je descendais tous les samedis au marché de Sutton, où il y a Jardin de Tessa. Puis je viens de voir quelqu'un qui va y être aussi samedi prochain. Je vais aller voir cornes pointues, c'est ça ? Les cornes pointues, le fromager. Donc je connaissais un petit peu ce réseau-là, mais je n'étais pas vraiment inscrit dedans. Parce que, ne le connaissant pas complètement, j'allais pas aller jusqu'à la Grelinette, ça représente à peu près trois quarts d'heure de route de chez moi, pour m'approvisionner, merci. C'est ça. Donc le réseau n'était pas clair pour moi, il fonctionnait pas très bien. Alors déjà, en faisant ces recherches-là, j'ai découvert tout le réseau, et maintenant je sais où aller acheter mes légumes, je sais où acheter ma viande, bio ou pas bio. Les légumes, pareil, qu'ils soient naturels ou bio, en général, ils sont tout aussi bons. Puis j'ai surtout appris à me détacher de l'épicerie.
Ouais.
Ça, quand je dis de l'épicerie, c'est le supermarché de l'épicerie. Parce que pourquoi acheter des légumes qui viennent, comme en ce moment, j'ai failli acheter une pomme qui venait d'Allemagne. Pourquoi faire ? Pourquoi on veut chercher des pommes en Allemagne ? On a des producteurs de pommes partout. Friedrichsberg, il y en a partout. L'histoire de la Californie qui commence à pu produire comme elle veut, on fait venir des légumes d'Espagne. Il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. C'est la fameuse légende du camion de tomates, où un camion de tomates est parti d'Espagne puis pour aller livrer ses tomates en Hollande, pendant qu'un camion hollandais allait livrer ses tomates en Espagne. Ils ont eu un accident dans la région de Lyon. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi faire ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, j'ai découvert ce réseau-là. Puis, ensuite, bien sûr, pour moi, c'était quelque chose de naturel. J'ai grandi dans une petite ville en France qui ressemble assez... Bon, plus petit que Saint-Lambert, mais j'étais sur la place du marché. Donc, ce que je vois là, ça faisait partie de mon quotidien, mais ma semaine, tous les samedis matins. Il y avait le marché devant chez nous. Puis mes grands-parents étaient agriculteurs, donc c'était normal de manger le poulet qui court dans la cour, etc. Puis en rencontrant ces gens-là, tous ces maraîchers, ces éleveurs, j'ai vu que c'était très compliqué ici. qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus de 100 œufs, 100 poules chez soi. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Il n'y a aucune explication à cette loi. On va en Colombie-Britannique ou même juste à côté au Vermont. Au Vermont, il n'y a pas du tout de quota. En Ontario, je crois que c'est 300. Puis en Colombie-Britannique, c'est 2 ou 3000 poulets qu'on peut avoir. Ici, c'est 100. Pourquoi faire? On ne sait pas. Si vous lisez le livre de Dominique Lamontagne qui s'appelle La ferme impossible, c'est extraordinaire. Il le décrit avec humour, où notamment un éleveur de poules doit avoir une machine pour mirer les œufs. Hein? La machine coûte 6000 piastres. Il n'a pas de coq. Pourquoi mirer les œufs quand on n'a pas de coq? La loi oblige ça. Alors lui, il a gratté. Il a gratté la loi, puis il s'est aperçu que il n'y avait pas de... ils n'étaient pas obligés d'avoir une méthode particulière pour mirer les œufs. Alors il a appelé le ministère, à MAPAC, puis il leur a dit, mardi, là, au marché de mon village, je vais vendre mes œufs. Ils vont être mirés à la main. Envoyez-moi deux inspecteurs lundi matin pour m'expliquer comment faire. Alors, les deux inspecteurs se sont pointés, puis ils ont passé 2 heures, face à face, avec une bassine d'œufs non mirés et une bassine d'œufs à mirer. Pendant 2 heures, ils les ont scrutés un par un à la lumière du néon qui était au-dessus d'eux pour les mettre dans les mirets. Voilà, dans la bonne bassine. Au bout de 3 mois, il a reçu le rapport comme quoi il aurait dû ajouter un grillage sur son ampoule parce qu'au cas où l'ampoule éclate et voilà. Alors, j'ai découvert à quel point, mais d'imbécilité, je m'excuse, les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers étaient confrontés et ne pouvaient tout simplement pas développer leur commerce, alors qu'on sait, et Jean-Martin Fortier de la Grelinette l'a prouvé avec son livre Le Jardin Maraîcher, une famille peut vivre avec ça, les gens, ces jeunes-là peuvent s'inscrire dans le système économique et en vivre. Sauf que ils sont confrontés à des lois, à des syndicats qui leur mettent carrément des bâtons dans la rue. Puis ça, c'est une fois que tu as acheté ta terre, mais juste pour acheter la terre, c'est très compliqué avec la CPTAQ. Donc c'est comme un frein à l'économie que je n'arrive pas à comprendre. Le livre n'est pas politique, mais il faut en parler un petit peu quand même.
Justement, vous dites que le livre n'est pas politique, mais pourtant on constate à sa lecture que l'agriculture alternative, en fait, des solutions à beaucoup de problèmes, des problèmes environnementaux, des problèmes de gens qui sont allés vivre à la ville, qui voudraient avoir plus d'espace, des problèmes même, vous parlez de cohésion sociale tantôt, et c'est fou de voir, en fait, toutes ces personnes d'âge différents, d'origines différentes, d'occupations différentes qui se rejoignent, par exemple, pour la récolte de l'ail, qui finissent par avoir un... Ça fait des villages, le tissu social est vraiment très, très serré. Et donc, même s'il n'y a pas de visée politique, on a envie un peu, après l'avoir lu le livre, de comme prendre action pour enlever, aider ces agriculteurs alternatifs à avoir une vie plus facile. Je me demandais si vous connaissiez certains, je sais pas, regroupements, certaines façons dont on pouvait venir en aide comme ça.
Oui, il y en a. Bon, il y a Équiterre qui fait beaucoup de choses avec notamment son réseau de fermiers. Les gouvernements et même les syndicats comme l'UPA commencent à changer un petit peu. Il y a eu des actions qui ont été faites. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Puis il y a aussi des syndicats plus petits, l'Union Paysanne ou il y en a un autre, je ne sais plus son nom, qui sont quand même plus proches de cette démarche-là. Mais je pense que la meilleure façon de faire pour appuyer ces gens-là, c'est tout simplement d'acheter leurs produits. Puis ça va les aider, ça va leur donner de la force, puis ça va répandre un petit peu la bonne parole, puis ça va mieux nous alimenter tout simplement, ça va nous éviter de prendre notre auto pour aller faire des kilomètres ou quoi que ce soit, et que des légumes nous arrivent par avion. Alors à ce niveau-là, en achetant ces produits-là, on peut faire quelque chose, on peut influencer, on va mieux manger, puis le contact social que ça provoque, juste là on voit les gens qui discutent entre eux. Oui, non, mais c'est ça, voilà, exactement, c'est ça. C'est d'aller au marché, puis d'appeler, de connaître la personne qui vous vend ses légumes, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis on le voit à plein de niveaux. Souvent, je vais au marché de Sutton, les jardins de Tessa arrivent, puis il y a 2 jeunes étudiantes du village qui viennent les aider. Hop, ça fait un petit peu de travail d'été pour la fin de semaine pour ces jeunes-là. Alors, à plein de niveaux, on voit que c'est quelque chose de très fort, de très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait le comparatif avec le retour à la Terre des années 70, qui était un peu hippie, etc., où c'était des gens qui n'avaient, comme le dit Pauline dans le livre, c'était un retour à la Terre, mais par des intellectuels qui n'y connaissaient rien, ça a été un échec. Mais ces jeunes-là, ils s'y connaissent, ils sont éduqués, ils ont étudié là-dedans, ils ont une vision précise, ils savent où ils s'en vont. Donc c'est une implication économique claire et nette. Elle n'est pas capitaliste, mais elle est économique. Ils ne rejettent pas le système économique, ils veulent s'inscrire dedans. Alors je pense qu'en leur achetant nos légumes, ça a un effet d'entraînement.
Oui, parlons de tous ces jeunes agriculteurs-là. Il y a plein de projets super intéressants dont j'avais aucune idée, super originaux, ouais, par rapport à l'agriculture dans la BD. Je veux savoir si vous en aviez, qui vous avez touché particulièrement ou que vous voudriez recréer, que le genre de choses que vous aimeriez faire vous aussi.
Moi, le faire, non. Je ne sais pas planter des légumes. Et voilà. Voilà, c'est ça. Mais oui, il y a des projets qui sont formidables. Marie-Ève Lafont, elle a acheté une maison dans un développement urbain qui a dû construire entre 300 et 400 maisons en 4 ans. Donc c'est un développement urbain à Commonsville énorme, c'est très gros. Et le propriétaire était un peu embêté parce qu'au plein milieu de son développement urbain, il y a un terrain qui est zoné vert. Puis Marie-Ève lui a dit « Votre terrain, il m'intéresse, on va faire un jardin ». Alors elle est en plein cœur du développement urbain, elle est entourée par des maisons, c'est toutes les mêmes, il y a la poignée de porte qui change de couleur, c'est tout. Mais ce sont les gens eux-mêmes du quartier qui viennent eux-mêmes ramasser leurs légumes, les cueillir. Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que elle le dit très bien, ça délie les langues, ça permet de connaître un peu mieux son voisin, ça apaise les tensions aussi. Alors à plein de niveaux, ça a un effet bénéfique. Et elle, son projet, parce qu'à un moment donné, il y a l'employé du promoteur qui est arrivé pour traiter la pelouse, parce que les pissenlits, c'est pas beau. Ouais, franchement, elle a dit wow, vous touchez pas à ça. Puis elle a dit mes voisins là non plus, pas d'herbicide là-dessus, on veut que ça pousse. Elle a été voir le promoteur, puis elle lui a proposé que chaque nouvelle maison, plutôt que de planter de l'herbe qui donne pas grand chose, de planter des arbres fruitiers, de planter des fruits, des légumes, des fleurs sauvages. Mais alors l'idée, c'est que vous voulez des framboises, c'est devant le numéro 15 chez Madame Chose. Vous voulez un prunier, c'est devant le numéro 34 chez Albert et Monique ou quoi que ce soit. Alors juste ça provoque des échanges vraiment intéressants. Alors ça, c'est un exemple que j'aimerais voir se reproduire. Il y a la ferme Formido. Alors je me mélange toujours entre Notre-Dame de Stonebridge, Stonebridges et puis Stonebridge, il y a 4 Stonebridge. On passait pas loin. Eux, ils ont racheté, c'est un frère et une sœur, ils ont racheté la ferme des parents dans les années 70 pour en faire du bio. Vous imaginez que tout le monde les a traités de hippies, les a regardés de marginaux et tout, sauf qu'ils ont, les bêtes étaient malades, la terre était pas belle, ils ont tout changé, maintenant leur production est bio. On peut acheter du veau, du bœuf, du poulet bio. La facture est pas si énorme que ça. On les achète à la ferme. Et j'ai rarement vu un agriculteur qui avait autant d'amour pour ses bêtes. C'est incroyable. Ils m'ont charmé complètement. Mais vraiment, alors des coups de cœur comme ça. Edem, c'est un monsieur rigolo, vraiment charmant. Alors, le capitaine Levin,
ouais,
qui ramène, je suppose que c'est illégal son affaire, il a ramené des semences de Bretagne pour les planter ici au Québec, puis il est associé avec Amélie et Aurélien pour planter lui-même son blé et faire son propre pain avec ses propres récoltes. Moi je trouve que ce sont des démarches tout à fait intelligentes. Puis après,
il
y a 48, il y a 54 personnes qui sont interviewées dans le livre. Puis je crois que c'est 24 entreprises liées à l'agroalimentaire qu'on visite.
Ouais. Je m'intéresse aussi à la démarche derrière la BD parce que, premièrement, c'est un travail de recherche qui semble colossal. Le dessin aussi est très intéressant. Et je veux savoir aussi, pour la faire publier tout, vous avez choisi la maison d'édition La Boîte à Bulles, qui est en France. Enfin, je veux savoir comment tout ça, comment le projet, est-ce que vous aviez déjà une maison quand vous avez commencé? Est-ce que vous avez fait le projet ensuite, vous avez cherché? Bref, comment ça s'est articulé tout ça?
Alors déjà, je dois dire que je suis très chanceux parce que pour faire ce projet-là, j'ai bénéficié d'une bourse, d'une subvention du CALC, du Conseil des Arts et l'Aide du Québec. Merci le Conseil des Arts. Donc déjà, ça a été énorme parce que en ayant une bourse comme ça, ça permet de prendre ça plus relax, qu'un projet comme celui-ci devienne le projet prioritaire et qu'on continue de remplir le frigo avec des petits contrats à droite et à gauche, mais sans courir après. Donc ça, c'est déjà une chance, j'ai eu ce privilège-là. Pour moi, c'est énorme. Après, je voudrais parler de la façon que j'ai travaillé. Ensuite, j'ai commencé à chercher des éditeurs. Est-ce qu'il y a un éditeur québécois dans la salle?
Moi, je travaille pour une maison d'édition.
Ah. Il n'y a aucun éditeur québécois qui m'a répondu.
Ah ouais.
Ah,
ouais.
Ah
ouais. Ouais. C'est plate, mais c'est le deuxième projet que je monte, hein, comme ça. Les éditeurs québécois ne répondent pas. Il y a des éditeurs européens, français, belges ou suisses, qui sont devenus presque des amis à force de me refuser mes projets. On se connaît, ils connaissent. Il y a notamment le directeur en chef des éditions Dargo qui m'écrit régulièrement: où en es-tu dans tes projets? On a compris le dernier, mais je veux savoir où tu en es. Oui, ils sont intéressés, ils continuent de communiquer.
Alors qu'au Québec, il n'y a pas
de... Au Québec, il y en a. Il y a, alors, oui, puis non. Il y a Éco-Société. Pardon? Aucun? Ah non, Éco-Société m'a répondu.
Ouais.
On a étudié le projet. Le projet était trop gros pour eux.
Ouais.
Donc, ils ont hésité longtemps. Au début, ils voulaient que ce soit en noir et blanc. Ok, d'accord, on regarde ça. Puis petit à petit, ils ont dit: ah non, finalement, on se retire, on peut pas, c'est trop gros, même en noir et blanc. J'ai signé avec la boîte à bulles qui a embarqué tout de suite sur le projet. Et après ça, c'était parti. Mais c'est ça, je suis sincèrement... Les conditions en France sont quand même des fois meilleures qu'on a au Québec en tant qu'auteur. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit un éditeur québécois. Ça, c'est certain.
C'est ça. Peut-être le prochain aussi, qui sait.
Peut-être le prochain. Ben, c'est sûr que celui-ci m'a mis en bon français sur la map.
Ouais.
Je pense que maintenant j'ai une couverture médiatique extraordinaire. Mm-hmm. J'ai un revirement du succès de ce livre. Alors je pense que ça va peut-être être plus facile, puis qu'ils vont être un peu plus ouverts. Par la démarche technique, en fait, moi je travaille en cinéma.
Oui.
Donc tout est fait numériquement. Il n'y a aucun original là-dedans, tout est fait par ordinateur. Il faut le dessiner quand même, je dessine sur l'écran. Et la façon que j'ai repris un peu ma technique de cinéma, c'est-à-dire que je travaille beaucoup en storyboard. Un storyboard, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'illustration d'un scénario avant le tournage. Alors ça permet au réalisateur de bien expliquer sa vision et au tournage d'expliquer avec un dessin, justement, c'est quoi qu'ils veulent au final. Voilà. Alors, ayant cette expérience-là, j'ai utilisé les codes de lecture du cinéma plutôt que ceux de la bande dessinée que j'ai balayé, que j'ai mis de côté. Tout simplement parce que j'ai eu un constat un jour, en prenant le métro à Montréal, que les gens regardaient des films là-dessus. J'ai dit, pourquoi on lit pas de BD? Puis de fait, lire une bande dessinée sur un écran, faut zoomer, ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors si vous remarquez la bande dessinée, les cases sont en long. Et chaque case correspond à un écran de téléphone. Alors le projet, c'est que chaque case apparaisse sur l'écran, puis qu'on les fasse défiler un par un. On a même poussé le concept à projeter chaque image sur un grand écran, avec une ambiance sonore de chants d'oiseaux, de vent dans les feuilles, et il y a deux comédiens qui viennent lire les textes. Alors ça, on l'a fait une première fois expérimentale, et quand le livre est sorti, on l'a refait, où ce sont les protagonistes même de la bande dessinée qui sont venus lire leur propre texte. Alors l'idée que j'ai, c'est de pouvoir, avec son téléphone, le lire dans le métro, les écouteurs dans les oreilles, puis là, on est tout de suite dans la ferme, on est dans le champ, on est avec les agriculteurs. Alors, ça, voilà, c'est ça. Alors ça c'est un petit peu le projet dont je rêve, mais pour l'instant, il y a déjà le livre.
C'est déjà, voilà. Et justement, c'est votre première expérience en BD. Est-ce que ça vous a donné le goût d'en faire d'autres? Est-ce que vous avez d'autres projets de BD qui s'en viennent?
J'ai d'autres idées. J'en ai, oui, j'en ai une qui est déjà finie.
Ah bon?
Qui porte sur le cinéma.
Ok.
Parce que j'ai eu la chance de travailler avec Wim Wenders sur un de ses tournages. Et alors, l'anecdote est drôle parce que un an et demi avant à peu près, j'avais travaillé sur une production de Luc Besson. Puis je leur avais demandé d'aller voir le tournage et de dessiner sur le tournage. Je dessine beaucoup les portraits des gens dans la rue, etc. Puis là, ils m'ont répondu, bah ouais, mais c'est compliqué, les assurances et tout ça. Puis on voit bien l'intérêt artistique de ton projet. Mais le producteur, c'est pas Besson qui m'a répondu ça, c'est son producteur délégué. Il me dit, mais c'est quoi l'intérêt marketing pour vous?
Okay.
Ah, là, c'est sûr qu'il n'y avait aucun intérêt commercial pour eux à ce qu'ils m'invitent sur le tournage. Un an et demi après, je travaille avec Wim Wenders, qui est un cinéaste d'auteur, Les Ailes du Désir, Paris, Texas, etc. Puis je lui demande la même question, est-ce que je pourrais les dessiner sur le tournage? Ils tournaient en plein hiver, la raison pour laquelle ils avaient un truc. Puis Wim me demande, bah oui Stéphane, tu peux, mais tu vas avoir froid. Alors la démarche n'était pas, la vision était vraiment complètement différente, et donc j'ai raconté les 3 semaines de tournage. Alors ça, c'est le prochain projet qui est quasiment terminé. Mais puis j'embarque sur un autre projet aussi avec la MRC de Bromissisquoin, où on va travailler sur une œuvre numérique et physique autour du paysage.
Ah ouais.
Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui se veut sensibiliser la population locale à leur environnement, au paysage. Et on a poussé le paradoxe un peu plus loin en se disant comment on peut traiter le paysage. La photo, tout le monde en fait, tout le monde en prend, on ne les regarde plus. Des fois, on passe devant un paysage, puis on s'arrête pas. Oh, c'était beau, t'as vu? Ouais, mais on peut-tu s'arrêter un peu? Alors, l'idée, c'est de commencer le projet par le son. Donc, on va parler du paysage en faisant une baladodiffusion qui va être illustrée en dessin.
Wow.
Parce qu'on s'est rendu compte que si vous regardez un film, si l'image n'est pas très bonne, vous arrivez à suivre. Mais dès que vous entendez pas,
ouais.
Chut, écoute. Parce que le son nous raconte en tout premier, c'est immersif complètement. Alors on va faire un travail sur le paysage en l'abordant par le son et par l'image par la suite. Alors il va y avoir une baladodiffusion web dessinée et on va faire aussi des installations, une immense banderole de 160 pieds de long sur 3 pieds ou 4 pieds de haut qui va être à différents endroits dans la région. Mais ça c'est pour dans un an à peu près.
Et tous ces projets et vos anciens projets aussi sont des projets de non-fiction. Vous avez publié des carnets de voyage aussi. Mmh. Je me demandais si la fiction est un monde qui vous intéressait ou si vous aviez aucune intention de vous lancer là-dedans.
Oui, ça m'intéresse, mais je ne sais pas raconter des histoires.
Donc, mais c'est très bien raconté là-dedans.
Oui, mais parce qu'il y a un fil rouge qui m'est donné par les gens.
OK.
Donc, je leur tends le micro, puis ils me racontent leurs histoires, puis après, je l'organise de la manière que je veux. Ouais. Mais de raconter une histoire du début jusqu'à la fin, ça demande une faculté scénaristique qui est très très forte. Alors puis, j'avoue que j'avais aussi un peu décroché du monde de la bande dessinée.
Mm-hmm.
J'étais un fan fini, j'en ai en France, chez mes parents, ils me demandent chaque année quand est-ce que t'enlèves tes BD, parce qu'il m'en reste encore beaucoup là-bas. Puis j'ai décroché de ça parce que les histoires de héros et de super-héros me charmaient de moins en moins.
Okay.
Et quand j'ai découvert Les Ignorants, je dis, oh, ça c'est intéressant. D'abord Emmanuel Guibert avec La Guerre d'Alan, puis Les Ignorants. Et c'est Wim Wenders d'ailleurs lui-même qui m'a fait le déclencheur parce que on parlait de la bande dessinée Les Ignorants avec le directeur artistique lors d'un repas. Puis Wim dit, ah, je connais pas Les Ignorants, mais dans son allemand, dans son français avec accent allemand, mais j'aime bien le titre parce que quand on est ignorant, ça veut dire qu'on peut apprendre. Puis ça, je dis, waouh, ok, j'embarque. Et effectivement, ce que j'aime dans les romans graphiques documentaires comme ça, c'est que ça garde le côté ludique de la bande dessinée, mais on apprend des affaires. Et ça, c'est très riche, parce qu'on prend du plaisir en apprenant des choses. En fiction, oui, mais c'est moins fort. Il y a quelque chose de plus sensationnaliste. Puis le documentaire, tous mes travaux, ma démarche artistique est toujours portée auprès des gens. Que ce soit le rétro labo où on a demandé à des gens de nous ressortir des vieilles photos pour la refaire actuellement, à hauteur d'enfant, le concept c'est qu'on demande aux enfants d'imaginer une histoire, ils l'écrivent à la main, puis nous on réunit 10-15 illustrateurs qui illustrent l'histoire de l'enfant sur le champ, puis on en fait un livre après. La tête de la petite fille de 11 ans qui a imaginé une princesse, puis qu'on est en train de dessiner sa princesse devant elle, les yeux qu'elle fait, c'est du bonbon. Et quand on lui offre le livre, elle se dépêche d'aller à la page 12 parce qu'il y a son histoire dedans. Ça, c'est des projets géniaux qu'on adore. La Bohème, on intervient une quinzaine de d'artistes dans un village, puis on fait le portrait des gens sans leur dire. Alors je vous prends en photo, ou maintenant je vous dessine,
Puis la semaine d'après, bah, votre portrait va être dans la vitrine de du fureteur, où vous, monsieur, votre photo va être chez le boucher. Alors bien sûr, ça provoque une cohésion. Après, ils viennent me voir, ils disent « Non, Robert, pourquoi tu es en photo chez le pharmacien ? Je comprends pas. » Donc, toute ma démarche artistique est portée sur mon environnement social, proche. Puis, c'est ma matière... Mesdames et messieurs, vous êtes ma matière première à créer. Mais j'aime les gens. Il y a tellement d'histoires extraordinaires à écouter les gens que j'ai pas besoin de leur raconter plus que ça. Tout simplement, la réalité dépasse souvent la fiction. J'ai vécu des affaires en faisant toutes sortes de démarches qu'on met ça dans une histoire de fiction. On dit non, ça se peut pas. Donc, autant écouter les gens puis raconter la vraie vie.
Mais il y a plusieurs histoires d'agriculteurs là-dedans qu'on les mettrait en film et on se dirait, non, ça peut pas faire ce projet-là. Puis finalement, ça fonctionne.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous pour votre écoute. Et les BD sont en vente ici. Vous pouvez les faire dédicacer en même temps.